Chapitre 10.
C'est toujours convenu pour ce soir?
Même si j'ai déjà programmé avec Douglas ma venue au penthouse ce soir pour apporter des provisions et faire le ménage, il me demande toujours confirmation par texto. Il est extrêmement organisé. Compte tenu de ce qu'il me paie, je réponds systématiquement dans la foulée. Oui, je serai là. Comme je n'ai pas cours aujourd'hui, je vais consacrer mon après-midi aux courses pour les Garrick, puis au ménage de leur appartement impeccable et à la préparation du dîner. Je travaille pour eux depuis plus d'un mois maintenant, je connais la routine. J'ai la liste des courses en main, mais je dois me rendre à Manhattan pour trouver tout ce qu'ils veulent. Brock m'a demandé de rester la nuit dernière. J'ai passé beaucoup de nuits chez lui ces derniers temps, parce qu'il vit tout près du penthouse et assez près de l'université. Mais c'était une raison de plus pour refuser cette fois. Si j'augmente la fréquence des nuits où je reste couchée dans son appartement, je vais pratiquement vivre avec lui. Et ça, je ne peux pas. Pas encore, en tout cas. Pas avant de lui avoir dit la vérité. Il mérite bien ça. Seulement j'ai peur. Que Brock panique et me largue sur le champ, une fois qu'il saura tout de moi. Et encore plus que ses riches parents de la classe supérieure le persuadent de me larguer lorsqu'ils l'apprendront. Brock est parfait, et sa famille est parfaite. Alors que moi, je suis très loin d'être parfaite. À un point que ça n'en est même plus drôle. Ma dernière relation était à l'opposé de la perfection. Et d'une certaine manière, ça me convenait mieux. Je ne suis pas sûre de ce que ça révèle de moi, que mon partenaire idéal soit un gars comme Enzo Accardi. Ça a commencé il y a 4 ans, entre Enzo et moi. Nous sommes d'abord devenus amis, après qu'un de mes emplois avait pris fin de manière extrêmement inattendue. N'ayant pas beaucoup d'amis, je lui étais très reconnaissante du soutien qu'il m'apportait. Nous en étions arrivés au point de passer presque tout notre temps libre ensemble, et en plus, nous avons aidé une dizaine de femmes à s'extraire de relations violentes. La plupart du temps, il s'agissait simplement de leur obtenir des ressources, mais certaines fois, nous avons dû faire preuve de créativité. Enzo avait établi des contacts qui lui permettaient d'obtenir une nouvelle identité, des téléphones jetables intraçables et des billets d'avion pour des destinations lointaines. Nous avons sorti des femmes de relations toxiques sans avoir à recourir à la violence. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Si je suis tout à fait honnête, il y a eu quelques fois où ça a été un peu... le bazar. Enzo et moi étions convenus de ne plus jamais parler de cette époque-là. On faisait ce qu'on avait à faire. C'est Enzo qui m'a convaincue de retourner à l'université pour obtenir un diplôme d'assistante sociale. Je ne me doutais pas sur le moment qu'il me mettait ainsi sur la voie d'une vie normale que jamais je ne me serais imaginée possible. Mon casier judiciaire ne m'interdit pas de décrocher un emploi dans le domaine social. Et là, je pourrais faire ce qui me plaît dans le respect de la loi. Brock aime dire qu'on forme une bonne équipe, lui et moi. Peut-être que c'est vrai, mais Enzo et moi, oui, on était vraiment une bonne équipe. Ça marchait bien, nous deux. On s'était donné une mission, et pour couronner le tout, il était gentil, passionné et sexy comme pas possible. Surtout ça, d'ailleurs. J'avais beau m'efforcer d'être son ami, il était difficile d'ignorer ses attributs bien spéciaux. Au début, je détestais le béguin frustrant que je développais pour cet homme. Puis, un soir, j'étais à son appartement, on se partageait une pizza livrée par notre restaurant de prédilection, qui était aussi, pure coïncidence, le moins cher. On avait pris nos garnitures préférées, pepperoni et supplément fromage. Je me souviens d'Enzo prenant une longue gorgée au goulot de sa bière et m'adressant un sourire.
« C'est sympa », il a dit.
« Oui, j'ai opiné. C'est sympa. » Il a posé sa bière sur la table basse. Après toutes les maisons où j'avais fait le ménage, j'éprouvais une sorte d'étourdissement chaque fois que quelqu'un omettait d'utiliser un sous-verre.
« J'aime passer du temps avec toi, Millie. »
Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les hommes, mais sa façon de me regarder était sans équivoque. Et si j'avais encore des doutes, ils se sont envolés quand il s'est penché vers moi et m'a donné un long, long baiser dont j'ai tout de suite su qu'il entrait encore mes rêves des années plus tard. Et quand nos lèvres se sont finalement séparées, il a murmuré
« Peut-être qu'on pourrait passer plus de temps ensemble ?»
Que pouvais-je répondre à part oui ? Aucune femme ne pouvait refuser une telle demande à Enzo Accardi. C'est drôle, parce que j'avais toujours pris Enzo pour un coureur. Pourtant, après ce premier baiser, il n'avait Dieu que pour moi. Notre relation a évolué rapidement, mais tout semblait parfait. Au bout de quelques semaines, On passait toutes nos nuits l'un avec l'autre et peu après, on a décidé de vivre ensemble. Nous deux, ça matchait. Entre la fac et ma relation avec Enzo, je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Je me souviens encore du jour où tout s'est écroulé. On était assis sur notre canapé, qu'Enzo avait ramassé sur le trottoir devant notre immeuble, mais il était encore très beau et tout à fait utilisable. Seule une de ses taches était demeurée non identifiée, mais ça n'était pas grave, il nous suffisait de retourner le coussin. Il avait un bras musclé autour de mes épaules et on regardait le parrain 2. À sa grande horreur, Enzo avait récemment découvert que je n'avais jamais vu la trilogie. « C'est un classique, Millie !» Je me revois blottie contre lui, à penser à quel point j'étais heureuse, et au passage, que mon petit ami était bien plus sexy que Robert De Niro. Et puis, son téléphone a sonné. La conversation qui s'est ensuivie s'est déroulée entièrement en italien, et je tendais l'oreille pour tenter de comprendre un ou deux mots. « Malata », il répétait en boucle. J'ai fini par taper le mot sur mon téléphone pour le traduire. « Malade ». Après avoir raccroché, il m'a expliqué la situation avec l'accent marqué qu'il avait parfois lorsqu'il était stressé ou en colère. Sa mère avait eu une attaque. Elle était à l'hôpital. Il devait rentrer en Sicile pour la voir, d'autant plus que son père et sa sœur étaient tous les deux morts et qu'il était la seule famille qui lui restait. J'étais troublée, car il m'avait toujours expliqué qu'il ne pourrait jamais retourner chez lui. Avant de quitter la Sicile, il avait battu de ses mains un homme très puissant, l'avait laissé à moitié mort, et sa tête était mise à prix. « Tu m'as dit que tu ne pouvais pas y retourner », lui ai-je rappelé. « Que des salauds te tueraient si tu y retournais. Ce n'est pas ce que tu as dit ?»«
Oui, oui », il a admis. « Mais ça n'est plus un problème. Ces salauds, d'autres salauds s'en sont occupés. »
Que répondre à ça ? Je ne pouvais pas interdire à mon petit ami de se rendre au chevet de sa propre mère alors qu'elle venait d'avoir une attaque. Je lui ai donc donné ma bénédiction. Et il a pris l'avion le lendemain. À l'aéroport, où je l'avais accompagné, il m'a embrassé genre 5 minutes sans discontinuer avant de passer la sécurité, en promettant de revenir très bientôt. Je n'avais pas imaginé qu'il ne reviendrait jamais. Je suis sûre qu'il en avait l'intention. Il ne m'aurait pas menti délibérément. Au début, on se parlait au téléphone tous les soirs, et c'était parfois assez torride. Il me susurrait dans le combiné combien je lui manquais et qu'on serait bientôt réunis. Mais, avec la guérison de sa mère qui traînait en longueur, il est devenu de plus en plus évident qu'il ne pourrait pas repartir. Et elle ne pouvait pas venir ici. Je ne l'avais pas touché ni n'avais vu son visage depuis 1 an quand je lui ai enfin posé la question. « Dis-moi la vérité. Quand est-ce que tu reviens ?» Il a laissé échapper un long soupir.
« Je ne sais pas. Je ne peux pas la quitter, Millie. »
« Et je ne peux pas attendre éternellement, » je lui ai dit.
« Je sais. »
Il a convenu tristement. Et puis,
« Je comprends ce que tu dois faire. »
Et voilà, c'était fini. Aussi simplement que ça, c'était fini entre nous. Alors quand quelques mois plus tard, Brock m'a proposé de sortir avec lui, je n'avais aucune raison de refuser. Avec Enzo, ma vie était une sorte d'aventure excitante. Mais désormais, je suis sur la voie de la vie parfaite et normale que je n'avais jamais cru possible pour moi avant. Brock ne connaît pas de gars capable de lui dégoter un faux passeport en 24 heures. J'imagine que si je lui demandais un service de ce genre, il tomberait sur les fesses. Enzo connaissait un gars pour tout. C'était pratiquement sa réponse systématique quand je lui demandais de l'aide. Je connais un gars. Et maintenant, je suis en train d'accomplir la tâche la plus normale qui soit. Aller à l'épicerie. Bien que, pour être honnête, il n'y ait rien de normal dans la liste des articles que Douglas m'a chargé de rapporter. En passant en revue les premiers items de son SMS de ce matin, je frémis. Il m'envoie dans une sacrée chasse au trésor. Main de Bouddha, tête de violon, concombre à confire, baie de poha. Sans déconner, il les invente ces noms? Tête de violon? C'est pas un truc qui existe vraiment, si? Ça a l'air tout à fait inventé. Liste des courses en main, j'attrape ma veste et me dirige vers la cage d'escalier. Je n'ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour trouver une tête de violon, ni même pour savoir ce qu'est une tête de violon. Donc, autant me mettre en route avec beaucoup d'avance. Au moment où j'atteins le palier du rez-de-chaussée, je manque de percuter l'homme qui vit en dessous de chez moi. Juste en dessous de chez moi. Celui qui a une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Je grimace en le voyant.
Salut.
Il me sourit. Sa dent en or à la deuxième incisive gauche me fait penser à Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion, mon film préféré quand j'étais gosse.
On est pressé?
Oui, je réponds avec un sourire contrit. Pardon. Son sourire s'élargit.
Pas de souci. Je m'appelle Xavier, au fait.
Enchanté, je réponds, évitant de lui révéler mon prénom.
Millie, c'est ça?
Ou comment une stratégie échoue lamentablement. Je suis prise d'une sensation désagréable au creux du ventre. Cet homme sait exactement où je vis et il connaît mon prénom. Probablement mon nom de famille aussi. Bien sûr, il a facilement pu le découvrir en regardant nos boîtes aux lettres. J'ai toujours, par intermittence, l'impression d'être observée. Il y a des moments où je pense que c'est le fruit de mon imagination, mais là, tout de suite, je n'en suis plus si sûre. Xavier en sait un peu trop sur moi. Est-il possible qu'il... Bon Dieu, non. Je ne veux pas invoquer cette possibilité maintenant. C'est déjà assez flippant de marcher dans les rues du sud du Bronx sans avoir à s'inquiéter en plus que le type qui vit en dessous de chez moi me piste. Je devrais peut-être accepter l'offre de Brock et emménager avec lui. Xavier me laissera probablement tranquille si je déménage dans l'Upper West Side. Et dans le cas contraire, il devra affronter le portier en petit costume et chapeau. On ne franchit pas comme ça la barrière d'un de ces portiers. Je parie qu'ils peuvent utiliser leur chapeau comme boomerang en cas de besoin.
« Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui ?»
me demande Xavier. Je prends la direction de la sortie. Juste quelques courses à l'épicerie.
« Ah oui ? Vous voulez de la compagnie ?»
Non, merci. Xavier semble sur le point d'ajouter quelque chose, mais je ne lui en donne pas l'occasion. Je le dépasse et m'esquive. Que j'emménage avec Brock ou pas, il se peut que j'aie à partir d'ici dans un avenir proche. Je ne me sens pas à l'aise avec cet homme. J'ai le mauvais pressentiment qu'il est le genre de gars à ne pas considérer un non comme une réponse acceptable.